les affaires créoles sur le chantier.
Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on en se plaint. Relâche et vite, ferme les yeux, imagine-toi.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zaffaires Créoles, le magazine d'actualité réunionnaise. Il est un classement dont la Réunion se passerait bien de figurer dans les premiers, avec un taux de chômage deux fois plus élevé qu'en métropole, 18% contre 7,9%. Le marché du travail réunionnais est l'un des plus minés du pays, une situation qui frappe les jeunes mais pas que. Dans les statistiques, on oublie souvent de mentionner les personnes en situation de handicap, et à la Réunion, en 2018, elles étaient pourtant près de 55 000. Parmi elles, on comptabilisait exactement 1686 non-voyants ou malvoyants. Ne rien voir ou presque, une difficulté de plus au moment de trouver du travail, qui ressemble parfois à un véritable parcours du combattant, on le verra. Aurore, tu es allée à la rencontre de ces personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord pourquoi ce sujet te tient à cœur ?
Bonjour, oui, ce sujet me tenait à cœur, car je suis moi-même handicapée moteur et donc confrontée à ces difficultés. Pendant mon parcours, je n'ai pas côtoyé ces personnes, car ici à La Réunion, nous sommes regroupés par catégories d'handicap. Une communauté d'handicap moteur et mental, et une autre composée d'handicap déficient visuel, sourd et muet.
Et pour ça, tu as d'abord rencontré Roger. Roger, lui, il a 30 ans, il vit à Saint-Joseph dans le sud de l'île, et il est demandeur d'emploi depuis près de 10 ans. Pour lui, c'est la vraie galère.
Exactement, je vous propose d'écouter son témoignage. Bonjour Roger, pouvez-vous nous expliquer votre handicap ?
Je suis malvoyant. On m'a diagnostiqué le problème de l'EBR. C'est en fait, c'est les nerfs optiques qui ont été touchés, on va dire.
Et ça fait combien de temps vous êtes malvoyant?
Ça fait 23 ans, parce que c'est à l'âge de 7 ans que j'ai eu ça.
Ça fait combien de temps que vous êtes demandeur d'emploi?
On va dire 11 ans, je pense, parce que j'ai commencé très tôt à être dans les formations professionnelles et même dans certains travail.
Quel poste recherchez-vous actuellement?
Si je me base sur les deux diplômes que j'ai, ça serait plutôt dans l'élevage. Et sinon, ça fait acquis pas mal de connaissances et j'aimerais peut-être, pourquoi pas, être éducateur sportif. Moi, ça me dérangerait pas.
Et quel poste vous avez déjà occupé?
J'ai eu des formations professionnelles en tant qu'ouvrier polyvalent en élevage et ensuite j'ai eu le côté machine et comme j'ai pas le droit de utiliser tout ce qui dit les engins pour transporter la paille, etc., ce sera ça plutôt le plus gros souci. On va dire.
Quelle a été votre démarche justement par rapport à ça?
J'avais vu avec mes anciens patrons si je pouvais continuer à travailler avec eux, mais comme eux, ils allaient mettre leur exploitation vraiment matérialisée et qu'ils avaient besoin de beaucoup de machines, ils m'ont dit ils vont pas me prendre et faire en sorte que soit je travaille pas, eux ils gagneraient pas rien, mais moi aussi je perdrais mon temps, on va dire. Donc ils préfèrent pas prendre ce risque là.
Et avez-vous sollicité des services d'accompagnement?
Oui, j'ai toujours le Cap emploi qui me suivait aussi déjà par rapport à ça. Après j'ai eu la chance au début de mes formations. Comme j'étais encore quand même jeune, j'étais suivi par le centre de la ressource, etc. Eux, ils ont pu m'aider à mettre en place des solutions. Mais après, au fur et à mesure des deux ans de formation, je voyais que même ayant ces différentes solutions-là, si les patrons allaient mettre leur exploitation au niveau machine, je voyais pas ce que moi j'allais faire après pour accompagner tout ça, quoi.
En gros, il n'y avait pas de moyen d'adapter le poste, c'est bien ça?
Au niveau des transports, des caissettes de tomates, etc., il me dit, il ne va pas me dire de continuer pour que moi je perde du temps et pour de compréhension des employeurs. Mais là, je remarque que beaucoup de personnes que je connais ont du travail, etc., parce que les employeurs prennent plus le temps de voir avec eux, voir les envies qu'ils ont, etc. Là, maintenant, on va dire, il y a quasiment 3 à 4 ans, il y a eu vraiment ce changement-là. Mais au début, c'était quand même compliqué.
Pensez-vous que les employeurs font plus d'efforts qu'avant pour intégrer les malvoyants?
Ben, au début, oui. Au début, ils m'ont beaucoup aidé parce que ça a permis d'améliorer les conditions de travail et aussi de montrer à les patrons que j'avais que d'améliorer, voilà, tout en aménageant le travail que moi je faisais. Ils ne perdaient pas en qualité ou en quantité. Au contraire, ça allait être peut-être bien pour eux. Et j'ai pas eu de problème là-dessus, donc oui, ça a rapporté quelque chose.
On vient de l'entendre, de nombreux obstacles empêchent certains malvoyants de travailler. Il existe pourtant des structures adaptées qui accompagnent ces déficients visuels dans leur recherche d'emploi.
Oui, tout à fait. Il y a des dispositifs comme Cap Emploi ou la MDPH, la Maison départementale pour les personnes handicapées. Moi, j'ai rencontré Valérie Decomble qui travaille à la CASDV. Elle nous explique son rôle. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous travaillez chez le CASDV. C'est quoi le CASDV?
Le CASDV, c'est un dispositif pour l'insertion professionnelle. On travaille avec notre financeur qui est l'HFIP et le FIP pour une prestation qu'on appelle les PAS, c'est-à-dire prestation d'appui spécifique. Donc, on travaille, nous, le CASDV, on est sur le champ du handicap visuel et du handicap moteur.
Comment accompagnez-vous les personnes en situation d'handicap visuel?
Prescripteurs qui sont Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, aussi de l'AGFIP aussi et du FIP, des employeurs publics et privés. Donc lorsque nous recevons cette demande qu'on appelle une fiche de prescription, ils nous demandent d'intervenir pour connaître les difficultés visuelles de la personne, de savoir les moyens de compensation qui existent pour ces personnes-là. Et si la personne est salariée, donc on intervient sur le poste de la personne. On aménage le poste de la personne avec des équipements, des moyens de compensation qui peuvent être d'une plage braille pour un non-voyant, de logiciels de grossissement pour quelqu'un qui est malvoyant. Ça peut être une synthèse vocale aussi. Donc, il y a tout un panel d'équipements de compensation qu'on peut mettre à disposition pour ces personnes. On peut aussi leur apprendre à se déplacer, ce qu'on appelle de la locomotion. On a aussi une formation de braille si la personne en a besoin, de transcription de documents si la personne a besoin en gros caractère ou en petit caractère. On a aussi une action de sensibilisation auprès de l'employeur ou auprès des organismes de formation.
Quelles sont les difficultés que ces personnes rencontrent au travail?
Alors, pour quelqu'un qui est demandeur d'emploi, la difficulté qu'il rencontre, c'est vraiment le niveau d'études. Donc, c'est vraiment une grande barrière. Le public qu'on recense a plus un niveau BEP, parfois niveau 3e. Donc ça, c'est une grande difficulté. Pour les personnes qui sont en emploi, donc qui sont déjà en emploi, la difficulté parfois, c'est vraiment les moyens de compensation qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas qu'il y a des moyens de compensation existants ou quoi.
Est-ce qu'au niveau des employeurs, c'est facile à négocier pour mettre en place?
Oui, le monde du handicap commence à évoluer, surtout au niveau visuel. Et si les employeurs connaissent les dispositifs, ils sont d'accord pour mettre en place les moyens de compensation possibles.
Avez-vous déjà eu des difficultés à mettre en place une adaptation?
Non, puisqu'ils savent qu'ils ont l'aide de la GFIP ou du FIP pour tout ce qui dit de la sensibilisation, les outils de compensation, le maintien en emploi, donc non, on n'a pas de difficultés.
Avez-vous déjà sollicité Cap Emploi dans le cas où vous ne trouvez pas de solution pour ces personnes-là?
Oui, on travaille étroitement avec Cap Emploi, et avec eux, on essaie de trouver justement tous les moyens pour permettre à ces personnes-là leur intégration professionnelle.
Y a-t-il des postes en particulier sur lesquels les malvoyants travaillent le plus?
Le secteur d'activité où ils travaillent le plus, c'est tout ce qui dit administratif. C'est le secteur tertiaire qui est dominant. Donc après, il y a ceux qui n'ont pas le niveau, donc s'orientent plus vers agents d'entretien, espaces verts. Donc il y a des possibilités, il y a des moyens pour les aider pour pouvoir travailler. Mais le tertiaire, c'est-à-dire l'administratif, c'est ça le métier, on va dire, des personnes déficientes visuelles.
Si un malvoyant n'a pas le niveau requis, comment ça se passe?
On va passer par le niveau de formation, c'est-à-dire qu'on va lui dire d'abord de faire une formation Et après, à partir de cette formation-là, de trouver et de travailler avec, on travaille avec Cap Emploi et la GFIP sur des parcours, ils appellent ça parcours de définition de projet. Donc, et à partir de là, ils vont découler pour savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver comme métier, ce qui est en adéquation avec leur possibilité de travailler.
Est-ce qu'il y a des adaptations possibles sur les postes de travail? Pouvez-vous nous citer les matériels adaptés pour ces personnes?
Oui, il y a des adaptations possibles. Exemple de Grégory, qui est, on va dire, presque en cécité. Donc, lui, sur un poste informatique, donc on a mis en place une plage braille, une synthèse vocale qu'on appelle JOS. Pour les personnes qui sont malvoyantes, il y a des claviers au caractère, des logiciels de grossissement. Il y a aussi des loupes électroniques et des téléagrandisseurs pour permettre les personnes de lire les documents écrits et manuscrits.
Avez-vous un rapport direct avec les employeurs?
Rapport direct, on peut dire oui, puisque l'employeur, lorsque son salarié est en difficulté, soit il nous sollicite, soit il sollicite Cap Emploi, les dispositifs Pôle Emploi ou la GFIP. Donc nous, après, on prend contact avec l'employeur pour lui demander s'il veut une action de sensibilisation et qu'est-ce que ça demande par rapport à l'adaptation de poste.
Quelles sont les obligations des employeurs envers les travailleurs handicapés?
Oui, ils ont normalement un quota qui est de 6% de salariés dans leur effectif qui soient reconnus travailleurs handicapés. Mmh. Donc, ils ont une pénalité, on appelle ça une taxe, qui soit ils reversent à la GFIP, soit au FIP.
Y a-t-il plus d'entreprises qui payent ou qui ne respectent pas la loi?
Depuis que je suis dans l'insertion des personnes déficientes visuelles, je vois de plus en plus d'employeurs quand même qui cherchent à faire l'adaptation de poste de leurs salariés ou recrutent des personnes en situation de handicap.
Dans cette catégorie de personnes, le chômage est-il plus important comparé à la population globale?
L'handicap visuel est celui où il y a moins d'embauches. L'handicap moteur est celui où il y a une explosion, parce que handicap moteur ne veut pas forcément dire fauteuil roulant. Donc il y a des situations d'handicap qui entraînent des situations de handicap moteur. Et du coup, il y en a plus.
Quels sont les principaux freins à l'emploi des personnes déficientes visuelles?
Alors, c'est le transport. La Réunion est vraiment les montagnes, les voitures et tout ça. Donc, c'est une grosse difficulté pour eux. En plus, ce n'est pas comme en métropole où il y a l'accessibilité des trottoirs. C'est plus facile. La Réunion, on est encore très, très, très loin derrière. Et le transport est vraiment une grosse difficulté, un gros handicap, on peut le dire, pour les personnes qui sont déficientes visuelles.
Lors de votre accompagnement, y a-t-il quelqu'un qui vous a particulièrement marqué?
Je me rappelle d'une situation où un jeune homme est venu nous voir en disant qu'il veut être garagiste et qu'il est non-voyant. Il était garagiste avant, et suite à un accident, donc il est devenu non-voyant. Et il est venu me voir en disant, ben voilà, je veux continuer à être garagiste. Moi, j'étais très pessimiste. Et je lui ai dit, ça va être compliqué, quels sont les garages qui vont t'employer, parce que vu ton handicap, c'est irréaliste. Mais j'ai appris qu'il a ouvert son entreprise de garagiste. Et du coup, vous savez, il y a les personnes déficientes visuelles, surtout, gardent quand même une mémoire, on va dire, une mémoire visuelle. Et je vous assure qu'il répare les voitures. Il y a certains garagistes qui font appel à lui en disant, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est bon? Donc, c'est étonnant. Bon, là, ça par contre, c'est un exemple vraiment qui m'a stupéfait. Oui.
Et des exemples comme ça, il en existe heureusement beaucoup. Aurore, tu as également rencontré Nicolas Mtima, il a 51 ans et lui, il s'épanouit au travail.
Alors oui, malgré les difficultés au quotidien, notamment pour se déplacer, Nicolas Mtima fait partie de ceux qui vont travailler avec le sourire. Non-voyant, il s'est accroché pour obtenir un emploi de standardiste dans lequel il est heureux. Bonjour, Monsieur Nicolas.
Bonjour.
Que faites-vous dans la vie, Monsieur Nicolas?
Ben, je travaille à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt depuis 28 ans. Hein. Donc, un an avant, j'avais travaillé à l'ADI, c'était l'agence départementale d'insertion. Et comme il n'y avait pas beaucoup de trafic téléphonique, d'appels téléphoniques, pendant mes jours de congé, j'allais chercher d'autres boulots ailleurs. Et donc, c'est la DAF qui m'a accueilli depuis 1995.
Pouvez-vous nous décrire votre handicap?
Je suis non-voyant, on peut dire ça comme ça. Ça aussi, c'est parce qu'à force d'être sur le chantier de bataille chaque jour, ou je dirais même dans ma vie, je n'aimais pas le mot aveugle. Donc, j'ai dit non, je n'aime pas ce mot parce que ça fait trop fermé. Voilà. Et après, non-voyant, j'ai dit je préfère non-voyant, mais non-voyant-voyant. Et après, maintenant, je me considère comme un déficient visuel. Donc, c'est un petit peu péjoratif parce que déficient visuel, c'est plus utilisé dans le cadre pour les malvoyants. Mais non, déficient visuel, c'est de voir autrement.
Quelles sont les difficultés rencontrées au travail?
Les difficultés, pas vraiment, parce que je suis très équipé au niveau de l'informatique, tout ce qui est braille et synthèse vocale. Donc, dès le départ, j'ai dit de toute façon, tu fais ta place et après tu prends ta place et après tu travailles avec les autres en équipe et tout. Et donc ça se passe très très bien. Et à l'extérieur, ben, on essaie d'aller dans les écoles, collèges et tout ça pour pouvoir parler un petit peu de l'handicap. Voilà.
Ouais. Est-ce que ça a été facile de trouver une entreprise?
Ben, quand je suis arrivé à l'île de la Réunion fin 93, donc en janvier, j'ai commencé à faire des recherches avec maman qui m'accompagnait dans tous les bureaux. J'ai essayé de trouver des astuces. Je dis bon, là, je suis de passage à la Réunion, je suis président d'une association en métropole, donc j'aimerais rencontrer le directeur. Parce que je savais que si je déposais ma lettre comme ça, ça allait à la poubelle ou dans un des bureaux, et puis avec la réponse du retour, j'ai le regret. J'ai reçu quand même pas mal. Mais après, il y avait Antenne Réunion qui m'a donné vraiment un grand coup de pouce. Il y avait Jean-Bernard Grondin, si je ne me rappelle plus. Jean-Bernard qui continue à faire des émissions à l'extérieur. Et puis, il y avait Jean-René Félicité qui m'avait suivi pour voir comment je fais de la recherche, comment je recherche un travail. Donc, ils m'ont suivi dans un des bureaux. Et le lendemain, il y avait l'ADI qui m'a dit, ben, OK, dans 2 mois, on va t'embaucher. Et donc, et puis j'ai fait un an, et puis après, à partir de là, j'ai postulé pendant mes jours de congé, j'allais chercher ailleurs pour pouvoir trouver un autre travail.
Avez-vous eu besoin d'adapter les locaux et les matériels utilisés?
Les matériels utilisés, oui, parce que bon, j'avais quand je suis venu ici, j'avais fait une formation de 4 mois en informatique. Alors, auparavant, on travaillait sur le système DOS, c'est-à-dire le système, bon, je ne me rappelle plus, le DOS. C'était vraiment, il fallait taper toutes les commandes. Hein. Et puis, à partir de là, on pouvait demander un matériel spécialisé. Donc, j'avais un bloc-notes, c'est-à-dire un matériel informatique braille. Et donc, je suis venu avec ce matériel. Et puis, à partir de là, chemin faisant, donc, j'ai demandé à le FIPHFP, qui, en fin de compte, c'était un organisme qui était toujours à l'écoute et qui nous accompagne toujours au sein du ministère de l'Agriculture pour tout ce qui est adaptation, matériel et formation.
Voilà. Comment partez-vous au travail?
Alors, pendant 20 ans, j'ai pris le bus depuis la montagne jusqu'au Jardin de l'État. Et puis, je prenais un autre bus depuis Jardin de l'État jusqu'au Beauvais-la-Providence. Et après, arrive un moment où la DAF fait la demande d'un transport qui me prenait, un transport adapté, qui me prenait depuis chez moi jusqu'au boulot. Voilà. C'était le GIHP. Mais arrive un moment après, ça aussi, ils nous ont laissé vraiment au bord du chemin. 2 mois avant, en disant que maintenant, ils ne peuvent plus nous prendre en charge. Et là, à partir de là, depuis 3-4 ans même, peut-être un peu plus, je travaille, je prends le transport de liaison. C'est une association qui est basée sur le port, qui est vraiment très dynamique. Et puis, ben, ça se passe très, très, très bien.
Quels sont vos projets d'avenir?
Ben, de toujours continuer à rêver, d'être visionnaire et puis de partager mes expériences et de recevoir aussi plein d'expériences déjà, beaucoup d'échanges. Et avoir l'amour, être amoureux de la vie, de faire ce qu'on veut vraiment avec amour, et passion, amour et tout, voilà.
Autre personne, autre choix de vie à présent, Grégory, 31 ans et malvoyant, Et lui, il a carrément monté sa propre entreprise.
Grégory avait tellement marre de ne pas trouver du travail qu'il a créé son propre studio de musique. Il est désormais son propre patron et il adore ça. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Vous avez créé votre studio d'enregistrement appelé Defon. Pourquoi ce nom ?
Ben, comme le nom le dit, défendre la Réunion musicalement, culturellement aussi, si on peut dire ça comme ça en fin de compte.
Parlez-nous de votre parcours.
Mon parcours, ben moi je suis issu d'une famille musicale. J'ai toujours fait que de la musique dans ma vie depuis tout petit. Avant j'étais DJ avec mon père dans les soirées mariages. Et depuis 2003-2004, j'ai commencé à passer derrière le micro en tant que chanteur. Jusqu'à aujourd'hui, et j'ai rajouté la casquette de producteur il y a quelques années, si on peut dire ça comme ça.
Pouvez-vous nous décrire votre handicap ?
Moi, mon handicap, il est visuel. Je suis déficient visuel depuis tout petit, à force de faire des opérations et tout. Avant, je mettais des lunettes de vue. Maintenant, ça ne me sert plus à rien, parce qu'avec ou sans, pour moi, c'est pareil. Et ça fait à peu près une quinzaine d'années que ma vue, elle baisse à cause de la cataracte. J'ai eu la cataracte depuis tout petit, et c'est ça qui m'a amené à là, en fin de compte.
D'où vient cette idée de création d'entreprise ?
C'est une collègue à moi et un pote, et surtout mon petit frère, qui est aussi dans la musique. Et il m'a dit, frérot, vas-y, lance le truc, t'inquiète pas, je suis là, je vais te donner la force pour ça, on va développer le truc. Arrivé à un certain âge, comme tu l'as dit, j'ai 34 ans, et arrivé à l'âge de 30 ans, 31 ans, je commençais à me poser des questions, qu'est-ce que je vais faire pour la suite ? Et c'est là que les gens ils m'ont dit, t'as ton studio, vas-y, ouvre les portes pour les jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes talents, tu peux t'enregistrer, donc tu peux les enregistrer aussi. Et j'avais déjà enregistré des gens, et c'est là que je me suis dit, vas-y, on va lancer le truc, on va voir ce qu'on peut faire en fin de compte pour la suite.
Vers qui vous vous êtes tourné ?
Pour faire avancer le projet, comme j'ai dit là, j'ai mon frère qui est dans la musique ici, qui est en place, tout le monde le connaît. Et lui, il m'a dit, frérot, vas-y, t'inquiète pas, je vais te donner la force pour ça, on va faire des trucs, des sons, des clips, pour que le truc, il pète en fin de compte. Et dès le premier clip vidéo, le truc, il a pété direct, parce qu'il y avait lui dessus, puis c'est un autre cousin à moi. Et voilà, après, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, on continue à faire notre petit bout de chemin, quoi.
Avez-vous besoin d'adaptation des locaux et les matériels utilisés ?
Non, personnellement, non, parce que j'ai demandé un local. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en galère. J'étais obligé de monter mon studio chez moi, dans ma chambre, et j'ai insonorisé tous les trucs moi-même avec un collègue qui m'a donné un coup de main pour mettre les moquettes et tout sur le mur, faire la cabine et tout. Après, au niveau du matos, c'est mon matos personnel que jusqu'à aujourd'hui, j'utilise pour gérer les trucs en fin de compte.
Alors, dites-nous votre secret. Comment vous faites pour travailler sans vos yeux ?
C'est compliqué, hein ? C'est compliqué, mais de temps en temps, ça va. Mais après, sur l'ordinateur, sur la marque à la petite pomme, là, il y a des adaptations faites exprès. Pour les aveugles et les malvoyants, j'utilise VoiceOver, le Zoom, ou des fois s'il y a une couleur qui me dérange, j'inverse les couleurs pour que ça soit plus favorable pour moi. Après, c'est une question d'habitude depuis avant, en fin de compte.
Quels sont vos projets pour l'avenir ?
Les projets, c'est de continuer à développer les artistes, développer le label et reprendre ma carrière en main aussi parce que j'ai mis un peu ma carrière sur pause. Pour développer les jeunes. Et là, je suis en train de reprendre le studio pour moi et préparer mon premier album aussi, parce que tout le temps, je lâchais des sons à droite, à gauche. Et là, j'ai envie de vraiment me structurer pour faire vraiment un album carrément, en fin de compte.
Est-ce que ça vous a déçu que l'entreprise ne fasse pas l'effort de mettre en place un poste adapté ?
Un peu, c'est à cause de tout ça que ma diamant, personnellement, vaut mieux m'y bosse pour moi, m'y fais mon affaire moi-même, au moins il n'y aura personne, va dire quoi que ce soit.
Avez-vous vu une évolution positive concernant l'intégration à l'emploi des malvoyants ?
Toujours compliqué et voire même plus compliqué maintenant, parce que je ne dirais pas que le marché est saturé, mais si vous ne développez pas ton propre business, ou ça attend, ça galère avant de trouver un truc en fin de compte. Et personnellement, me dis pas que les structures, ils servent à rien, hein, les ISAM, SAMSA, tout ça, ils servent. Par exemple, pour, pour les gens que l'a besoin de l'autonomie. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'autonomie. Les centres là, les là, exprès pour mettre les gens en autonomie. Mais après, pour dire que aide à trouver un boulot, ceci, cela, vous autres va faire ces autres boulots, vous autres va faire des choses. Mais vous autres, ça va pas. Voilà, approfondir sur le sujet. Si on en a une heure de temps de prise en charge avec vous, une heure de temps, c'est une heure de temps. On se retrouve semaine prochaine et on sort à vous entre temps, essayez de trouver une affaire et nous on reparle quand on revient. Donc, moi, ce truc-là, allez, basta.
On l'a entendu, les situations de ces personnes porteuses de handicap sont diverses. Si certains s'en sortent très bien, à l'image de Nicolas Mtima, pour d'autres, comme Roger Prunière, c'est plus délicat.
Et tout cela ne s'arrange pas. Si le taux de chômage général a baissé de 3,8% en un an sur l'île, celui des personnes handicapées a quant à lui augmenté de 4,4% entre 2021 et 2022.
Beaucoup d'employeurs réunionnais ne respectent donc pas l'obligation de compter dans leur effectif au moins 6% de travailleurs handicapés. En contrepartie, ils versent chaque année une contribution financière.
La Semaine européenne de l'emploi, du 14 au 20 novembre, tente de faire bouger les choses. De nombreux ateliers de sensibilisation, des rencontres ou des job dating sont organisés partout sur l'île. L'an passé, 20% de ces rencontres ont débouché sur des stages, de l'apprentissage ou un emploi.
Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers, alors on vit chaque jour comme le dernier. Chaque jour, chaque moment. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Il y a des fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de la vie chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Il y a des fois la fin du monde nous a volé. Voilà.